French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Mais je pense que là, c'est un problème de méconnaissance. Mais pour nous, pour moi, je te parle d'il y a 40 ans de ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un problème de méconnaissance quand tu vois que ma fille à l'école... en France, on lui disait ben, « toi, t'es une arabe », au moment des événements, des attentats, où tu vois, elle avait des réflexions alors qu'elle était aussi apeurée que les autres enfants. Ça, elle avait 7-8 ans, mais bien sûr qu'elle a peur. Tiens, elle entend parler de ça, elle voit les adultes qui ont peur. Mon grand-père était en France, ma fille, c'est la 4e génération. Tu sais, à un moment donné, ben, je sais pas, il faut évoluer. Récemment, mon passeport a expiré, mon passeport français. Donc, je prends rendez-vous au consulat de France, ils viennent. Donc. Elle m'a demandé 3 fois si j'avais pas un autre passeport que le passeport français. Ben non. Et c'est pas la peine de me demander une deuxième, troisième, une quatrième fois. Je vais pas m'inventer un autre passeport parce que tu me le demandes 3 fois. Je n'ai que
Pourquoi
mon passeport
parce que,
français.
Parce que t'as un prénom d'origine
voilà,
algérienne.
Voilà. Ben, est-ce que tu as un autre? Ben non, ben j'ai pas d'autre passeport. J'ai qu'un passeport français. Donc, je te dis non la première fois. Ne me demande pas 2, 3 fois. 4 fois, ça sera toujours non. J'ai que ce passeport. J'ai pas le passeport canadien. Je suis pas encore canadienne. Pourquoi me le demander 3 fois? Quand je suis arrivée ici, ben, je m'appelle Leïla. En France, je m'appelle Leïla, tu es cataloguée maghrébine. Ici, je travaille dans une garderie, puis un jour, une maman me dit « Mais quand même, je ne comprends pas. Pourquoi tu t'appelles Leïla si tu es française, c'est un prénom américain ?» Et là, tu sais, tu dis « Ouais, eh ben, je ne sais pas. » Tu sais, je ne savais pas quoi lui répondre. Et effectivement, il y avait une petite qui s'appelait Leïla, mais... Une petite 100% canadienne, toute rousse, les yeux bleus, mais qui s'appelait comme moi. Mais pour eux, Leïla ici, ça ne me renvoie pas à maghrébine. Je suis française. Là, il y a eu la semaine de multiculturel au travail. Ma gestionnaire me dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour participer ?» En France, si on me demande de participer, on va me demander un couscous. Et ben, ici, c'était, elle me dit « Qu'est-ce que tu vas ramener de la France ?» j'étais là, je me disais, qu'est-ce que je vais ramener? Tu sais, même moi, j'étais perdue à un moment donné. J'en avais parlé à mon grand-père et il m'avait dit, mais vas-y, ma fille, mais dis-nous, regarde, on ne savait ni lire ni écrire, on est venu ici, le monde est à vous. Vous avez l'éducation, vous avez tout. Il m'avait dit, mais tu sais, ne reste pas forcément là, tu sais, profite en fait.
Je vais résumer cet épisode en quelques mots. Je vous dirais que la distance ne diminue pas l'importance ou même l'impact de nos racines, mais que celle-ci, cette distance, nous donne simplement une perspective différente sur nos origines. Leïla est née en France, et vous allez l'entendre à son accent chantant, elle a grandi dans le sud de l'Hexagone. La France, c'est son pays. C'est aussi le pays que ses grands-parents, venant d'Algérie, ont choisi pour sa famille, il y a plusieurs décennies de cela. Et l'Algérie, justement, c'est ça pour Leïla. C'est le pays de ses grands-parents, un pays dans lequel elle s'est rendue 2 fois dans sa vie, mais c'est aussi, et malheureusement surtout, un pays auquel on la renvoie systématiquement du fait de son prénom et de sa culture. Aujourd'hui, Leïla prend le temps de nous raconter depuis le Canada comment, peu après les attentats qui ont sévi en 2015 en France, elle a pris la décision de fuir le racisme, pour elle, mais aussi et surtout pour sa fille. Parce que parfois, on a beau être né quelque part et y avoir passé toute sa vie, on ne s'y sent plus vraiment chez soi. Vous écoutez French Expat ? Un podcast de French Morning, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely.
Mmh.
Bonjour, je m'appelle Leïla, j'ai 48 ans, je suis infirmière depuis 20 ans. Maman divorcée, donc quand je déménage avec ma fille, donc elle est avec moi dans l'aventure. Et puis voilà.
Super. Elle a quel âge ta fille ?
Elle va avoir 16 ans.
Ok. Et tu nous parles d'où là tout de suite ?
Je vous parle du Nouveau-Brunswick au Canada.
Ok. Alors le Nouveau-Brunswick, le Canada, j'ai l'impression que tout le monde voit à peu près où sont Vancouver, Toronto et Montréal, Québec. Mais Nouveau-Brunswick, je ne suis pas sûre que tout le monde s'y situe. Est-ce que tu veux nous repréciser où c'est ?
Mais je te rassure, quand je suis partie vivre pendant un an
toi
au
non
Québec,
plus.
Non mais elle ne savait pas. Je suis arrivée à l'hôpital de Sorel-Tracy, puis je leur ai dit que j'arrivais de Moncton, et elle me regardait en me disant « Mais c'est où ?» C'est au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire c'est la province à la droite de la vôtre.
Ouais, qui touche en plus le Québec.
Mais oui, c'est limitrophe.
C'est à l'est.
Voilà, c'est ouais. Ça. C'est, en fait, ça fait partie des provinces maritimes avec la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Donc, on est dans la lignée du Maine, de New York.
D'accord.
Mais okay. Elle ne savait pas non plus en tant que Québécoise où est-ce qu'était le Nouveau-Brunswick. Donc,
quand tu dis elle, c'était quoi tes collègues ?
Mes collègues québécoises, canadiennes ne savaient pas ouais. Où était Moncton.
D'accord. Donc, du coup, on n'est pas les seuls.
Non. Mais nous, c'est un peu plus compréhensible, on va dire.
Ouais, on est un peu plus loin,
c'est
en théorie.
Ça, oui.
Écoute, en tout cas, merci beaucoup de prendre un petit moment pour discuter avec moi. Moi, j'ai envie donc de raconter un petit peu ton histoire. Et avant, en fait, de parler de ton expatriation, de ton départ de France pour t'installer au Nouveau-Brunswick, j'aimerais bien, en fait, comprendre un petit peu, en fait, à quoi ressemblait ta vie avant de partir. Est-ce que tu veux me raconter, là, si on se retourne, je sais pas, il y a 7-8 ans, un truc comme ça. À quoi ressemblait en fait ton quotidien ? Voilà.
Mais il y a 7-8 ans, j'étais infirmière libérale en France. Donc toujours maman seule avec ma fille. On s'est séparés avec son papa, elle avait 2 ans. Donc on s'entend très bien, on a très bon contact. Mais lui vivait plus loin, il était à 5 heures de route. Donc je l'ai levé seule avec l'aide de mes parents. En fait, et donc je travaillais comme infirmière
Dans quel
en
coin
France.
De France
dans le sud, du côté de Nîmes.
D'accord, un petit accent.
Oui, je l'ai gardé.
Un petit accent du sud.
C'est ça.
Quand j'ai discuté avec toi en préparation de cet épisode, tu me disais que tu as quitté la France pour une raison principale, c'est aussi en fait pour t'éloigner du racisme. Est-ce que tu veux me parler en fait justement de ce racisme que tu as ressenti pas juste au moment où tu es partie en fait, et c'est quelque chose un peu avec lequel tu as grandi, ce que tu m'expliquais ?
Moi, je suis née en France, donc de parents d'origine algérienne. Mes parents sont tous les deux les derniers de leur famille à être nés en Algérie. Tous les suivants sont nés en France. Et encore, je pense qu'il faudra que j'explique qu'ils sont nés en Algérie française. Donc, ils sont nés français. C'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Mais ils sont
peut-être
nés français.
Peut-être même à méconnaître. Hein.
Ouais. Oui, c'est surtout que les gens ne savent pas. Quand j'explique ça, les gens ne savent pas que... tous ceux qui sont nés en Algérie, au temps de l'Algérie française, sont nés français. Donc, quand mes parents ont redemandé la nationalité française, ils ont été réintégrés à la nationalité française parce qu'ils étaient nés français.
Ah, parce qu'en fait, tu peux naître français, mais ne pas rester français quand tu es né en Algérie française ?
C'est ça, en fait. Donc, ils pouvaient être réintégrés à la nationalité française et c'est ce qu'ils ont fait.
Une fois que tu arrives en France.
Voilà, une fois en France, une fois adulte, ils ont demandé leur réintégration. Donc, en fait, parce qu'ils étaient nés français.
Ouais, d'accord. Et ils ont bougé, ils avaient quel âge quand ils sont arrivés en France ?
Ma mère est arrivée en France, elle avait 2 ans, mon père, pareil.
Ah oui, donc.
Vraiment, oui,
ouais,
voilà.
Ouais, ils ont fait toute leur vie en France.
Ils ont fait toute leur vie en France. Donc on arrive à moi qui suis née en France. Et puis, il y a toujours eu du racisme. Quand on arrivait dans notre village, on était les premiers à. La deuxième famille d'Algériens, mais notre voisine, elle a dit à ma mère, tu sais que ça, au début, elle était un peu...
Elle était un peu méfiante, tu veux dire ?
Un peu méfiante, oui, parce qu'en fait, c'était de la méconnaissance, on va dire. Et puis, une fois qu'ils nous ont connus, ces petites filles sont nos meilleures amies. Et puis, tu vois, voilà, mais je pense que là, c'était un problème de méconnaissance. Mais pour moi, je te parle d'il y a 40 ans de ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus un problème de méconnaissance quand tu vois que ma fille à l'école... en France, on lui disait toi t'es une arabe, au moment des événements, des attentats, où tu vois elle avait des réflexions alors qu'elle était aussi apeurée que les autres enfants. Ça, elle avait 7-8 ans, mais bien sûr qu'elle a peur, elle entend parler de ça, elle voit les adultes qui ont peur. On avait de la famille à Paris au moment des attentats, une cousine qui était au Stade de France, une autre qui était dans les rues de Paris, qui m'envoyait des messages pour dire vous inquiétez pas, on est safe. Donc tu sais, tu te dis... Ben non, quoi, il y a prescription, là, tu sais, mon grand-père était en France, ma fille, c'est la quatrième génération. Tu sais, à un moment donné, faut, ben, je sais pas, il faut évoluer, quoi. On est en 2000, aujourd'hui, on est en 2023, mais à l'époque, quand même... Et puis, voilà, donc c'est parti de ça, des petites réflexions, des petites choses, et qui durent, parce que récemment, mon passeport a expiré, mon passeport français, donc je prends rendez-vous au consulat de France, ils viennent, donc, et je lui dis, écoutez, est-ce qu'il pourrait être fait assez rapidement, parce que s'il arrive de quoi à ma famille, j'aimerais pouvoir rentrer. Elle m'a demandé 3 fois si j'avais pas un autre passeport que le passeport français. Ben non. Et c'est pas la peine de me demander une deuxième, troisième, une quatrième fois. Je vais pas m'inventer un autre passeport parce que tu me le demandes 3 fois. Je n'ai que
Pourquoi
mon passeport
parce que,
français.
Parce que t'as un prénom d'origine algérienne.
Voilà. Est-ce que tu as notre... Ben non, ben j'ai pas d'autre passeport. J'ai qu'un passeport français. Donc je te dis non la première fois. Ne me demande pas 2, 3 fois. 4 fois, ça sera toujours non. J'ai que ce passeport. J'ai pas le passeport canadien. Je suis pas encore canadienne. Donc si j'ai pas mon passeport français, ben je peux pas sortir du pays. Pourquoi me le demander 3 fois? Tu vois, c'est des petites choses comme ça, c'est des micro-agressions, c'est pas des choses qui sont...
T'as pas de confrontation dans la rue, quoi,
non,
mais
non,
c'est des choses au quotidien, quoi.
Voilà, c'est des petites choses au quotidien, c'est des petites choses au quotidien. Donc, j'ai commencé le processus en 2015, c'était à l'époque où Marine Le Pen, elle commençait à vraiment monter dans les sondages et où chaque fois c'était des votes barrages. Et là, j'ai commencé à me dire, ben, en fait, non, quoi, je vais pas rester, je vais partir. Parce que j'habite un petit village, on est quoi, 4000, 5000 habitants. Le parti Front National, il fait 50%. Ça veut dire que quand je suis devant l'école, il y a la moitié des parents qui ont voté Le Pen, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Il n'y a jamais rien dans notre village. Et puis même s'il y a quelque chose, même nous, on s'est fait cambrioler. Tu vois, on est parti un week-end, on est revenu, ma soeur avait été cambriolée. Pourquoi? Enfin, on est dans un coin tranquille. Tu serais dans une grande ville où tu as beaucoup de délinquance, de sidémie, mais même pas, on a un tout petit village. Tu sais, donc tu te dis, voilà, tu regardes les autres parents, puis ta fille qui n'est pas forcément invitée aux anniversaires, même si elle invite, elle n'est pas invitée, tu vois. Tu te dis, ben, pourquoi en fait? Pourquoi rester ça?
Et tout ceci... Tu l'as identifié comme étant lié en fait à du racisme.
Ben je vois pas d'autres raisons parce que quand je vois ma fille, les amis qu'elle a ici, le réseau social qu'elle a ici, je me dis ben c'est pas son caractère. Ben, son caractère n'a pas changé. Elle est la même qu'elle était en France. Là si je l'écoutais, elle serait tout le jour chez telle amie, chez Louise, chez Annabelle, chez Intel, chez tu vois. Mais tu dis, c'est pas son caractère, en fait. Ouais.
Donc elle a souffert, en fait, aussi de ce racisme. Ou je sais pas si elle s'en est rendue compte, elle était jeune aussi quand vous êtes partie. Toi, t'en as un peu souffert de voir ta fille en être victime, quoi.
Quand on lui a fait la réflexion directement, oui, tu ressembles à une arabe, tu es une arabe, là, elle me l'a dit. Dans ce
en même temps, c'est pas une insulte, t'es arabe.
Ben, quand on te le dit, en général, on te le dit pas gentiment, en fait. Hein. On te le dit pas gentiment. Et du coup, voilà, et puis voilà, c'était ça. Et puis... la fois où je travaillais, et j'avais une résidente, sa petite fille faisait ses études au Canada, et donc je lui dis, devine où est-ce que je pars en vacances, je ne serai pas là pendant 2 semaines, mais je dis, s'il y a quelqu'un de mes résidents qui va trouver où est-ce que je pars en vacances, c'est vous. Ben, elle me regarde, elle me dit, ben, je ne sais pas, dans ton pays.
C'est quoi ton pays?
C'est ça, j'ai dit, vous savez, moi je suis née ici, hein, je suis née à Alès. Ah, après elle était toute, je dis non, je vais au Canada. Et puis après, voilà, tu sais, ça m'a...
Ah, ouais,
je m'attendais tellement pas à ça.
Et c'est ce que tu me disais, c'est que tu te sentais presque pas assez française aux yeux de certaines personnes et pas assez maghrébine aussi.
C'est ça. En fait, on n'est pas assez français pour les Français puis on n'est pas assez maghrébin pour les Maghrébins quelque part aussi non plus parce qu'on remplit pas tous les, on remplit pas tous les, toutes les cases. En fait, on a rempli quelques-unes, mais pas toutes. Et donc, du coup, tu sais, c'est, voilà, tu es là, tu es au milieu. Donc, je me suis dit, ben, écoute, un peu me sentir, chez moi. Ben, je dis, je vais aller au Canada. Au moins, là, si on me dit, ben, t'es pas d'ici, ben, non, je suis pas d'ici. Mais, il y a quand même d'autres choses ici. C'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, ben, je m'appelle Leïla. En France, je m'appelle Leïla, tu es cataloguée, maghrébine. Ici, je travaille dans une garderie, puis un jour, une maman me voit, me dit, mais quand même, je ne comprends pas. Je la regarde, je dis oui. Pourquoi tu t'appelles Leïla si tu es française, c'est un prénom américain? Et là, tu sais, tu te dis, Ouais, eh ben, je sais pas. Tu sais, je savais pas quoi lui répondre. Et effectivement, il y avait une petite qui s'appelait Leïla, mais une petite, petite canadienne, 100% canadienne, toute rousse, les yeux bleus, mais qui s'appelait comme moi. Mais pour eux, Leïla ici, ça me renvoie pas à maghrébine. Je suis française. Là, il y a eu la semaine de multiculturel au travail. Ma gestionnaire me dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire pour participer? En France, si on me demande de participer, on va me demander un couscous. Et ben, ici, c'était, elle me dit, qu'est-ce que tu vas ramener de la France? J'étais là, je dis, ben, qu'est-ce que je vais ramener? Tu sais, j'étais perdue à un moment donné. Il reste quand même certaines choses de ce côté-là où tu sais pas trop où.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que t'as amené?
Rien du coup. Je travaillais, j'étais de nuit. Du coup, j'y suis pas allée. Mais c'est vrai que ça, sur le moment, ça m'a interpellée.
Tu te dis, OK, y a la montée du Front National, je me retrouve clairement pas dans ces idées et je me sens pas la bienvenue chez moi, puisque, on le rappelle, c'est ton pays aussi. Comment est-ce que tu prends cette décision de partir et comment est-ce que tu choisis le Canada, du coup? Puisque, enfin, je veux dire, tu pourrais partir n'importe où.
C'est toujours une idée que j'avais eue en tête. 20 ans auparavant, j'avais postulé, quand je travaillais en Suisse, et puis ça s'est pas fait. Et puis, tu sais, c'est les petites choses qui se font pas mais qui restent dans ta tête. Puis là, quand j'ai vu, je te dis que... Et puis moi, le truc, voilà, c'était je pars avant que Marie ne me dise de partir. C'était vraiment ça.
En gros, t'anticipais de te faire exclure, mais comment tu... Enfin, alors, tu peux pas te faire exclure du pays puisque t'es français.
Oh, tu sais, on a vu ce qu'il y a eu dans le passé, donc je me dis tout est possible. Hein. Rendu au... Ah oui, de nos jours, t'as vu la folie actuelle dans le monde. T'as vu aux États-Unis, ce jeune, il se trompe juste de maison, il se fait tirer dessus. Tu sais, il faut s'attendre à tout. Tu sais, et donc, j'ai toujours eu le Canada en tête. Et en fait, et ça a été après le choix de la province, en fait. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai passé des soirées à chercher quelle province serait la mieux au point de vue du bilinguisme, au point de vue du côté francophone. Parce que bon, moi, je me débrouillais en anglais, mais ma fille, elle n'avait pas encore commencé à l'étudier. Donc, je voulais pas aller dans un milieu complètement anglophone pour commencer. Et le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province qui soit bilingue officiellement.
D'accord. Où les deux langues, enfin, c'est pas juste les panneaux sont traduits.
Non, c'est tu dois pouvoir avoir les services dans les deux langues. C'est officiellement bilingue. Voilà, j'ai choisi le Nouveau-Brunswick et puis on est arrivé en 2018 avec ma fille.
T'as fait juste tes recherches ou tu t'es rendue? Parce que tu disais que t'as fait justement un voyage au Canada.
Oui, ah ouais, on est venu faire un voyage exploratoire de combien de temps? Une dizaine de jours. Donc voir la province, voir les villes, choisir...
Donc t'avais déjà jeté ton dévolu sur le Nouveau-Brunswick et
explorer ce coin-là. Voilà.
Et qu'est-ce qui t'attirait, donc, à part le bilinguisme dans ce coin-là?
Eh bien, ce qui m'a plu ici, c'est que déjà on est au bord de l'océan, on a la mer à 20 minutes. Le temps y est mieux qu'au Québec. C'est beaucoup moins gris, on a beaucoup plus de ciel bleu. Les températures sont moins froides. Donc, c'est pas le même climat. Et donc, j'avoue qu'en venant du Sud, le ciel bleu, c'était important. J'ai vécu un an au Québec et c'est vrai que c'est gris, gris, gris. Alors que là, t'as la neige au sol, il fait moins 15, mais t'as un beau ciel bleu avec un soleil. Et rien que ça, ça change tout.
Qu'est-ce qui t'a fait te dire que le Canada serait... ou le Nouveau-Brunswick serait un endroit où cette différence de multiculturalité, en fait, serait pas un problème, tu vois. Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu ne souffrirais pas du racisme ailleurs, finalement, tu vois? Comment est-ce que cette décision a été prise?
Mais par rapport à tout ce que tu pouvais lire sur la société canadienne, en fait, c'est vrai qu'ils sont plus, ouverts, ou peut-être moins francs, je sais pas. Non, je pense qu'ils sont... Ils sont plus ouverts, ils sont plus respectueux. Je le vois au travail, la façon dont la communauté LGBTQ est acceptée et vit sa vie.
C'est même pas un sujet, quoi.
C'est même pas un sujet, non. Ils vivent leur vie normalement. Ils sont pas du tout in the closet, comme ils disent, du tout. Donc, il y a pas ce jugement. Tu le vois, la façon dont les gens sont habillés. Ils sont habillés, mais comme elles ont envie. Si elles ont envie de mettre un leggings, elles mettent un leggings. Si elles ont envie de sortir en pyjama, elles sortent en pyjama. T'as pas ce regard, en fait, de jugeant. C'est ça qui est appréciable. Et ma fille, elle s'en rend compte, là, elle est rentrée l'été dernier. Mais ma fille me dit, maman, les gens, ils te regardent pas pareil en France. Tu vois?
Comment ça? En quel sens?
Eh bien, le regard, mais par exemple, le regard des hommes. Là, toutes les ados, elles sont en short, en t-shirt, et ça pose problème à personne. Alors qu'en France, eh bien, la même tenue, tu vas pas avoir les mêmes regards. Tu vois, rien qu'à ce niveau-là. Donc, je pense que ça permet aux filles de se construire différemment aussi à l'adolescence. T'as pas ce regard pesant, ce côté pesant.
Ici, bah, sur la voilà. Confiance en soi pour se
c'est
construire.
C'est ça, voilà, pour se construire en tant qu'individu, en tant que femme, je pense que c'est différent. Et puis voilà, et puis donc il y avait le côté, le côté du racisme, et puis on voulait donner d'autres opportunités aux enfants, qu'ils ne soient pas bloqués dans leur choix d'études et que leur nom, prénom ne soit pas un obstacle en fait, tout simplement. Donc on est venu avec ma sœur et ma sœur, ses deux enfants, son mari, et puis moi et ma fille. On arrivait en même temps. C'était pour les enfants, leur offrir plus d'opportunités.
Ouais. La motivation, en fait, c'était vos enfants, quoi. Qu'ils puissent être épanouis, pas jugés, que ce soit pas un sujet, leurs origines.
Non, et que s'ils faisaient tel choix d'études, ils ne soient pas bloqués par leur nom, quoi. Et que, tu vois, que, voilà, ils puissent aller jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient. Puis, une fois qu'on sera arrivé là, on aura fait notre job.
Et alors, comment se passe l'arrivée au Nouveau-Brunswick? Ça ressemble à quoi, d'ailleurs, le Nouveau-Brunswick? On sait que la météo est plus clémente qu'au Québec. Comment ça se passe pour vous?
Écoute, ça s'est bien passé. Non, vraiment, ça s'est bien. Mon premier appart, c'est la cata. J'en ai trouvé un en deux jours. Le proprio ne voulait pas d'enfant. Il a vu Lisa et m'a dit non, c'est bon, c'est parti. Donc, je suis restée un an. C'est juste pour l'équivalence de mon diplôme d'infirmière qu'il a fallu que je retourne un an au Québec.
Ah d'accord, et tu le savais ça avant de partir?
Oui, je le savais avant de partir.
D'accord, bon, ça faisait partie du deal.
Ouais, ça faisait partie, puis je suis restée un an, puis on est revenu en 2020.
D'accord, donc ta fille est venue avec toi?
Ouais, elle est venue avec moi un an au Québec, et pareil, ça s'est bien passé, le changement d'école. Elle a été dans une école privée catholique, et donc à l'arrivée là, elle est très typée, elle est brune, les cheveux longs, les yeux noirs. Parfois on me demande même si elle serait pas d'origine autochtone.
Ah oui.
Tellement elle est vraiment typée. Puis elle arrive dans cette école, il y avait que des blondinettes, les yeux bleus. Puis il y avait j'oublie toujours, c'est pas le costume, mais tu sais la tenue d'école, l'uniforme. Avant que je puisse lui acheter, ils lui font essayer l'uniforme. Puis là t'as la secrétaire qui la regarde, qui regarde le directeur, et dit mon Dieu, qu'elle est belle, ça nous change. Mais avec un grand sourire, tu vois. C'était pas péjoratif la façon dont elle l'a dit.
Ça aussi, genre content d'avoir de la diversité, quoi.
Voilà, c'est ça. Puis voilà, elle est belle. Ça nous change de bête, oui, de nos blondinettes avec ses longs cheveux noirs, ses yeux noirs. Et puis elle s'est très bien intégrée. Ça a été un an. Toutes ses copines lui demandent quand est-ce que tu reviens nous voir. Puis après, avec le Covid, ça n'a pas été facile. Mais voilà, tu vois, elle a gardé des contacts. Et puis je te dis ici, là, si je la laissais, mon Dieu, il y a toujours quelque chose à faire.
Pourquoi vous n'avez pas choisi de vous installer au Québec finalement? Parce qu'on entend souvent dans les médias dire que le Québec, Montréal, Québec, c'est l'Eldorado des Français au Canada. Est-ce que tu peux me raconter? Moi, je sais qu'a priori, c'est justement la raison pour laquelle tu voulais pas t'y installer, mais est-ce que tu peux justement me l'expliquer? M'expliquer.
Mais en fait, c'était pour pas retrouver la communauté française en fait. Parce que je l'avais laissée en France, c'était pour pas la retrouver au Québec. Et alors, bizarrement, en arrivant à l'hôpital où je travaillais, on s'est retrouvés trois gardoises.
Donc, trois Françaises du
Gard. Trois Françaises du Gard, en habité à une heure les unes des autres.
Quand tu es arrivée à Québec?
Quand je suis arrivée au Québec, ouais. Donc, ça a été marrant de se retrouver trois Françaises, et puis du même coin, surtout là-bas. Mais voilà, c'était surtout éviter ça, en fait.
Parce que tu voulais pas repartir dans les schémas de racisme?
Mais parce que tu le retrouves, tu sais, que je suis sur différents groupes, et puis tu retrouves ce côté quand même. T'as ceux qui arrivent à passer outre et qui s'intègrent au Canada. Puis je pense que ceux qui arrivent ceux qui gardent le côté du jugement et ce côté un peu, ils finissent par repartir en fait du Québec. Tu le vois dans leurs commentaires, dans le jugement qu'ils peuvent avoir en fait. Et ils arriveront pas à s'intégrer. Moi, ce qui me fait aussi beaucoup rire, c'est quand j'entends des Français, je sais pas, on va dire de souche comparé à moi, parler du racisme des Canadiens. Mais là, j'avoue qu'il y en a à qui j'ai dit, écoutez, la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai l'habitude, donc ça ne me gênera pas, alors que c'est vrai que pour vous, c'est nouveau. Parce qu'en fait, vous vivez ce que vous nous faites vivre en France, en fait. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, ils préfèrent les Canadiens, ils donnent les meilleurs jobs aux Canadiens. Vous faites quoi en France? Vous faites la même? Donc pourquoi leur reprocher du racisme? C'est pareil en France, en fait. Là, vous vous retrouvez dans nos chaussures à nous, quand on est en France. Et ça me fait doucement rire. Par contre, moi, je n'ai jamais ressenti de racisme ici. Voilà, j'ai des moments qui me, tu sais, comme je dis, s'expliquer au travail, là, qui me font, tu sais, m'interroger. Mais après, non, je n'ai pas eu de réflexion raciste, j'ai pas ressenti de racisme moi-même, et la petite non plus.
Pourtant, cette fois-ci, t'es étrangère.
Ici, voilà, je suis étrangère, mais ici, je suis seulement française. Si, c'est compliqué dans la tête. C'est compliqué. Les gens n'imaginent pas, en fait, mais c'est quasiment un sport, en fait, d'arriver à se positionner, savoir où se positionner, en fait. Non, c'est parce que tu vois, j'ai des collègues qui ont été embauchés, donc qui viennent des pays du Maghreb. Donc je m'appelle Leïla. Donc pourquoi tu parles pas arabe? Parce que je suis française. Oui, mais je suis née en France, je parle français, je parle pas l'arabe.
T'as jamais eu besoin de parler
non,
arabe?
Non, je l'ai pas appris. Et je te dise, je m'appelle Leïla, mais je suis née en France, je suis française. Tu vois, ça fait beaucoup de questionnements. Alors j'espère que le questionnement s'arrêtera à ma génération et que ça continuera pas avec ma fille. En fait, c'est aussi ça l'espoir. C'est qu'à un moment donné, ça s'arrête.
Que ce soit plus un sujet.
Non, que ce soit plus un sujet, en fait. On est des êtres humains, quel que soit notre prénom, quelle que soit l'origine de notre prénom. Quelle que soit la couleur de notre peau, on est tous des êtres humains, en fait. Et tu sais, peut-être commencer à plus s'intéresser à ça, à la personne, plutôt que à ce que représente sa couleur de peau, son prénom, qu'est-ce que ça peut impliquer, en fait. Voilà, c'est ce que j'espère pour ma fille, que ça s'arrêtera là. Qu'elle ne se posera pas toutes ces questions. Parce que c'est fatigant.
Ben ouais, j'imagine.
Ouais. Parce que... Ouais, à un moment donné, tu te dis, mais qui suis-je, en fait?
Ouais, c'est... toi-même, t'en arrives à être perdu, finalement.
Oui. Oui, parce que tu rentres pas dans cette case-là. Donc, en France, je suis en France, mais on me dit, t'es pas d'ici. Alors que si je vais en Algérie, je suis pas algérienne. Je suis une immigrée.
On ne considère pas algérienne.
T'es pas algérienne, t'es une immigrée. Puis c'est ainsi qu'ils appellent les Algériennes de France, on est des immigrées, donc...
Et puis, t'es pas allée souvent en Algérie de manière.
Mais non, je suis allée deux fois dans ma vie.
Ouais.
Je suis allée deux fois dans ma vie. Alors, oui, c'est le pays de mes grands-parents, c'est le pays où sont nés mes parents, mais j'ai passé plus de temps au Canada que moi, une semaine en Algérie, tu vois. Donc voilà, tu sais, c'est ça qui est. Les gens devraient essayer de se mettre dans les souliers des autres et se rendre compte que c'est pas aussi facile. Puis peut-être que, parfois, je me dis peut-être que la situation actuelle en France, c'est le résultat de tout ça, en fait. De tout ce temps à faire ressentir aux gens qu'ils n'appartiennent pas. Alors que, on appartient à la France, on est né en France. On est né en France, donc pourquoi nous faire toujours ressentir ce côté-là? Peut-être des exemples, j'en ai d'autres. Le jour où ma sœur elle a passé des examens pour être admise dans des écoles. Il y a une école, donc il fallait que ma mère appelle. C'est ma mère qui appelle pour avoir le résultat. Et donc, elle dit, voilà, je voudrais avoir le résultat de ma fille, savoir si elle a été admise. Puis la dame lui demande, c'est quoi son nom? Donc elle donne le nom de ma sœur, mais et puis du tac au tac, elle n'est pas prise. Il me semble que quand tu as une centaine, 200 élèves qui postulent pour une école, tu ne connais pas tous les noms par cœur, quel que soit le nom qui a été admis. Et avant de lui demander le prénom, ça a été, voilà, quand ma mère a dit le prénom, c'est quoi sa nationalité? Voilà. Si, ça, voilà, ça a été la deuxième question. Ça a été quel est son prénom, quelle est sa nationalité, elle n'est pas prise. Oui, c'est des petites choses comme ça, c'est des petites choses comme ça. Là, mais tu sais, t'en as une, deux et trois et quatre. Et à la fin, tu te dis, je l'ai vécu, je ne veux pas ça pour ma fille.
Et toi, parce que tu disais que tu cultivais cette envie d'aller au Canada depuis un moment, depuis en fait ton enfance, t'avais conscience que c'était pas normal, parce que Je ne sais pas comment est-ce qu'on prend conscience en fait, de ça, comme tu le dis, au moment où tu construis ta personnalité, ton identité toi-même. À quel moment, en fait, partir à l'étranger, voir ailleurs, si c'est... si on est peut-être plus admis d'une certaine manière, à quel moment ça a fait partie un peu du champ des possibles pour toi ?
Alors, quand il y a une vingtaine d'années, c'était pour l'aventure, tu sais, quand on a tous 24, 25 ans, on veut partir, on se dit, bah,
ouais,
je vais aller.
Erasmus.
Voilà, tu sais, voilà. Donc, et là, c'était plus voilà, partir à l'aventure, et puis, tu vois, là, j'étais allée en Suisse, bah, je vais aller au Canada. Et... Alors que là, non, là, c'était. Mais je pense que quand tu. Mais tu as dû le voir, tu sais, quand tu deviens parente, tu vois les choses. Tu vois les choses différemment.
Avec un prisme différent.
Voilà, c'est ça, tu vois les choses. Tu vois les choses différemment, et puis ce que toi tu as vécu, tu veux pas forcément que ton enfant le vive, en fait. Tu vois, donc. Bon, mais s'il y a des moyens de. Que ça puisse être autrement, eh bien, on va les tenter. On va les tenter, et c'est ce que j'ai fait. Pour l'instant, écoute, elle se plaît. Quand je parle de revenir en France, c'est non. Elle est bien ici, elle se voit faire ses années d'université ici, donc. On verra. Il lui reste 2 ans avant de graduer. Puis on verra. Mais ouais, c'était ouais, c'est le cheminement après être devenue maman, là, de voir comment ça se passait. Puis bon, après la situation aussi en France. Peut-être que si les choses avaient été différentes en France, j'aurais pas pris cette décision non plus. Hein. Peut-être que si les choses avaient été plus calmes, il n'y avait pas eu tous les problèmes qu'il y a eu avec la montée du Front National, la montée du Racine, on serait sûrement toujours en France. Mais voilà, ça fait partie des choses qui m'ont fait me décider.
Tu disais que ta sœur, ton beau-frère et leurs 2 enfants sont partis en même temps que vous. Vous avez encore de la famille en France ?
Ah oui, on a toute notre famille. Et tu sais qu'elle est nombreuse.
Et est-ce que les gens ont compris justement votre décision de partir ? Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez annoncé tout ça ?
Mes parents, ça a été compliqué parce qu'on vivait vraiment à côté d'eux. C'est-à-dire, comme je dis, moi, j'avais ma fille en garde alternée avec ma maman quand je travaillais. Donc, ça a été assez difficile. Les premiers mois étaient vraiment compliqués. C'est une fois qu'ils sont venus que là, mon père nous a dit « Vous avez bien fait. Vous leur avez ouvert d'autres possibles, d'autres horizons. » Voilà, là, ils l'ont compris. Puis, ils avaient surtout peur de la perte du lien, mais ils avaient été beaucoup trop proches jusque-là pour qu'il perde le lien. Là, ma maman, c'était surtout ça, en fait, qui lui faisait peur. Mais bon, non, c'est leur grand-mère et le lien, il restera. C'est les premières années qui comptent. Ouais. Donc, ils avaient un lien trop fort pour que ça se perde. Mais voilà, c'est une fois ici que mon père me dit, oui, je comprends. C'est pas facile, hein, c'est pas évident. Mais voilà, qu'il comprenait.
Surtout qu'ils perdent 2 enfants d'un coup, plus les 3 petits-enfants.
Plus les 3 petits-enfants, ouais. Donc ça...
Enfin, ils ne les perdent pas, mais
non, voilà,
ils les perdent dans leur quotidien physiquement.
C'est ça. Ah oui, voilà. En plus, c'était un quotidien où ils étaient vraiment très, 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 très impliqués, très, très actifs. Donc, ça leur a fait un grand changement.
D'accord. Et le reste de la famille ?
Ça a été très dur pour moi de dire au revoir à mes grands-parents.
Ah ouais ?
Ouais. Pareil, parce que comme ma fille avait mes parents, ben j'étais très proche d'eux, j'étais élevée chez eux. Et donc, ça a été très dur. Alors, j'ai eu la chance. Ma grand-mère est toujours là, ça fait 5 ans, et elle est toujours là. J'ai perdu mon grand-père en février. Et du coup, voilà, c'était très dur de se dire chaque fois, c'est peut-être la dernière fois que je les vois. C'est ça. Ça a été la première fois que je suis rentrée en 2019. Non, c'est en 2020. 2020, ouais, que j'ai très mal réagi au retour. Ça a été très, très compliqué, le retour. Tant que j'avais un oncle qui était malade d'un cancer, qui est décédé depuis. Et ça a été, cette année-là, ouais. C'est le retour, il a été, waouh.
Mm.
Ouais.
C'était dur de dire au revoir.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, les premiers temps du retour, là, ça a été assez compliqué. Donc non, c'est pas facile comme décision, ni pour eux, ni pour nous, je pense. Mais voilà.
Et pour tes grands-parents, justement, qui, eux, ont choisi la France, justement, pour élever leur famille, pour que tout le monde grandisse, le fait que tu dises, merci, mais moi, je vais aller essayer ailleurs, t'en as parlé un peu avec eux ou pas particulièrement ?
À ma grand-mère, c'était compliqué qu'on les laisse, ouais. Ma grand-mère, c'était compliqué.
Elle te disait quoi ?
Vous nous laissez, En fait, c'est ça, c'est vous nous laissez. Puis c'était surtout, voilà, elle me l'avait dit, mais je vous reverrai plus, peut-être. Voilà, c'était ça, en fait, tu vois, elle l'avait exprimé. Et par contre, il y avait un temps, quand tu sais, j'avais entamé les démarches, j'en avais parlé à mon grand-père maternel, qui est décédé l'année où j'avais fait mes démarches, justement. Et il m'avait dit, mais vas-y, ma fille, il m'a dit, nous, regarde, on ne savait ni lire ni écrire, on est venu ici, on s'est installé à l'Est, parce qu'on a trouvé ici. Il m'a dit, mais vous êtes éduquée, vous avez des diplômes, mais partez. Tu sais, le monde est à vous. Vous avez l'éducation, vous avez tout. Il m'avait dit, mais tu sais, ne reste pas forcément là. Tu sais, profite, en fait. Il avait cette philosophie-là.
Très, très en lien avec la tienne, du coup.
Ouais, voilà. C'était, tu sais, oui, voilà. Profitez. Vous avez le monde. Eux ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Mais bon, ils sont quand même venus en France. Ils ont élevé chacun leurs 11 enfants, les ont bien élevés. Et donc, voilà, donc on a pris le relais.
Et le papa de ta fille ?
Alors, le papa de ma fille...
Il a souffert du racisme, lui aussi, ou pas particulièrement ?
On n'est pas la même génération. Lui, ses parents sont la première génération. Tu vois, donc, on vit pas on n'a pas vécu la même chose. On ne vit pas les choses de la même façon. Parce que lui, par exemple, ses parents étaient la première génération. Tous les étés, ils rentraient en Tunisie. Donc, ce n'est pas du tout le même lien. C'est pas du tout la même...
Lui, ils sont peut-être plus attachés justement à la Tunisie que
voilà.
Toi, l'Algérie.
Oui, ouais. Voilà. Je pense que ça fait une différence, cette génération d'écart, en fait, dans le vécu, dans la relation au pays d'origine. Ça fait une grosse différence. Et par rapport au fait qu'on vienne, au début, il me dit « Ouais, ok ». Et puis quand il a vu que ça se concrétisait, il me dit « Ah, mais t'es sérieuse ?»
Ouais. En fait, tu vas le faire.
Oui, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et puis, en fait, il a bien compris que je ne partais pas pour éloigner la petite de lui. Ça, c'était, ça n'a jamais été le cas depuis qu'on est séparés. Donc, ça se produisait pas là, à ce moment-là. Donc, du coup, il a donné son accord, parce qu'il fallait que j'ai son accord officiel devant notaire et assermenté et tout ça. Donc, non, il n'a pas... L'important, c'était son équilibre à elle, son avenir. Donc, c'était lui donner des chances en plus. Donc, il ne s'est pas opposé. Donc, elle rentre tous les étés, puis lui, il vient une fois dans l'année, en fait, ou vers le mois de décembre. Voilà. On l'appelle toutes les semaines, quasiment plusieurs fois par semaine. Donc, le lien n'est pas rompu non plus avec son papa.
Là, du coup, ça fait 5 ans que vous êtes installée dans le Nouveau-Brunswick.
Ouais.
Enfin, au Canada, parce que tu as fait un an au Québec. Est-ce que tu referais tout pareil ?
Ouais, ouais, même l'étape au Québec, ça a servi à grandir. Donc ouais, je referais tout pareil. Je choisirais la même province, la même ville. Ouais, non, je changerais rien. Je me suis fait des amis au Québec, que ce soit canadienne ou donc les gardoises que j'ai rencontrées là-bas, Claire et Amandine. Et non, je referais tout pareil.
Eh ben bravo. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à des gens qui se posent la question, qui souffrent peut-être de même chose en fait que ce qui t'a fait partir? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a dit ou à l'inverse que tu aurais aimé qu'on te dise avant de partir au moment où tu réfléchissais à tout ça?
En fait, j'ai pas trop écouté ce qu'on me disait. J'ai vraiment fait à mon idée, parce que si j'avais écouté les gens, je serais pas là. Non, je pense que autant il y a des choses pour lesquelles je vais prendre le temps, autant là non, je m'en suis tenue à ce que moi je pensais, à ce que moi j'éprouvais. Je savais ce que je venais chercher quand je suis venue au Canada, donc j'en espère pas plus que ce que j'ai, et ce que j'ai trouvé me convient tout à fait. Tu vois, quand je vous lis les histoires de Français qui repartent parce que si, parce que mi, ben en fait je me retrouve pas, parce que c'est pas les choses que j'attendais, en fait. J'attendais pas des masses, j'attendais juste qu'on soit bien avec la petite. Et surtout qu'elle soit bien, en fait. Voilà, c'était la priorité. Et ça a été le cas. Donc après, je me suis adaptée par rapport à mon emploi. Et j'attends pas plus. Donc comme ça, je suis pas déçue. Et jusqu'à maintenant, je suis contente de ce que j'ai, en fait. Des gens que j'ai rencontrés, des expériences de travail que j'ai faites, les gens avec qui je travaille. Et donc même, à la limite, tu vois, j'ai fait une vidéo pour le travail, pour encourager les gens à venir. Parce que c'est une province où on est bien, où vraiment... Les gens sont accueillants, les gens sont gentils, les gens te laissent ta chance, en fait, quel que soit quelle que soit ton origine, la seule chose qu'ils vont te demander, c'est de faire ta job, comme ils disent, de faire la job. Et si tu fais ton travail, si tu fais tes preuves, ben, tu pourras monter les échelons sans aucun problème. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion, du moment que tu fais ton boulot, c'est ce qu'ils te demandent, ben, tu pourras progresser. Tu pourras progresser et monter les échelons et sans aucun problème, en fait. Juste, voilà, de respecter et... voilà, c'est surtout et c'est ce qui est important, en fait, de se respecter les uns les autres. Et tu pourras faire ton chemin, tu pourras faire une bonne carrière.
Alors du coup, ton futur, tu l'envisages là où t'es ?
Pour l'instant, ouais, on est bien ici. Après, puis ça va dépendre de ma fille, selon... où est-ce qu'elle veut faire ses études. Parfois, elle me parle à la Montréal, et puis finalement, oh ben ici, et puis oh ben non, Montréal, et puis ben, on verra. Écoute, soit je suis la maman
la
de Paul, mais je sais pas, on verra. C'est ce que j'envisage, elle n'est pas trop d'accord. Mais
Tu disais tout à l'heure que tu n'es pas encore canadienne. Tu as envie de devenir canadienne?
Ah oui, je vais commencer. J'ai commencé le process là. Il faudrait qu'on aille faire les photos d'identité aux normes. Et donc voilà, j'ai commencé mon dossier pour avoir la citoyenneté. Ben, ça aussi, tu vois, c'est important ici. Ils différencient la citoyenneté. Et si tu es citoyen canadien, je serai citoyenne. Mais moi, je fais la différence avec la nationalité canadienne. Pour moi, je serai de nationalité française parce que ben, je suis née française, mais citoyenne canadienne.
Ah, ok.
Tu vois, je trouve que c'est bien qu'ils fassent cette...
Citoyenne, t'as les droits, genre, voter, ben, je serais pas née au Canada. Quoi.
Voilà, je pense que c'est bien de faire cette... Ça met du sens de faire cette distinction, ouais. Ouais, je pense que ça fait du sens.
Et donc, du coup, aujourd'hui, tu te sens encore très française, encore
ah oui, non,
plus canadienne.
Non, je suis française. Ouais. Je suis française au Canada.
Française au Canada.
Ah oui. Ah non, j'ai le caractère trop français, j'aurai le trop pour être canadienne. Ils ne voudront pas. Et si tu demandes à mes collègues, ils vont te dire, oh non, elle n'est pas canadienne. Elle aura le beaucoup trop. Ah, j'aurais dit, ça va avec la France, hein, en gros. Hein. Regardez les manifestations en ce moment. Donc bon, je ne vais pas vous faire un sitting dans le milieu du couloir, mais en râle, c'est comme ça. Ça fait partie de notre charme, c'est ça, c'est notre culture, que vous voulez que je vous dise. Donc non, je suis française. Moncton est une ville récente, ainsi que Dieppe. Dieppe, qui s'appelle Dieppe par rapport à la ville de Dieppe en France. Elle a été construite récemment. Donc c'est vraiment des villes nouvelles où tu n'as pas trop le côté des maisons victoriennes. Le côté des maisons victoriennes, tu l'auras plus dans la capitale de la province, qui est à Fredericton. Alors que Moncton, c'est la capitale, on va dire, économique. C'est la plus grande ville. Il n'y a que 700 000 habitants au Nouveau-Brunswick, dont 100 et quelques mille dans Moncton et sa banlieue. Donc, comme je te disais, l'avantage de Moncton, c'est qu'on est vraiment près de l'océan. Tu as la ville de Shediac, la ville du homard, avec le plus gros homard au monde. Le Nouveau-Brunswick, c'est l'Acadie. Et ça a une très forte importance, l'Acadie, l'histoire des Français... ici avec je trouve plus mes mots à force de parler le chiac, l'anglais français au travail, avec la répression anglaise qu'il y a eu. Donc ça fait vraiment partie de leur identité ici, l'Acadie. Alors principalement plus au nord de la province, vers Bathurst, c'est là qu'il y a la plus grosse communauté francophone. Il y a Paquetteville, Caraquet, c'est là que tu trouveras le village acadien. Mais voilà, c'est l'histoire de la française est très très importante ici.
D'accord.
Ouais. Et tu vois, hier, je suis une aparté, le monsieur qui m'a posé qui m'a changé mes clims, quand ils sont arrivés ici, il s'appelait Leblanc. Mais ils ont été tellement anglicisés que ça a été changé en Young.
Ah ouais.
Non, white, le jeune s'est transformé en young et le blanc a été transformé en white, en fait.
Ah ouais, d'accord.
Tu vois, quand on parle presque d'éradiquer ta culture, en fait.
C'est dingue.
Mais tu vois, ils l'ont vécu ici. Tu vois, quand en France, on nous dit, changez vos prénoms, prenez des prénoms français.
On vous dit ça?
Pourquoi? Ben oui. Ben oui. Ben oui. arrêtez de donner des prénoms typés à vos enfants. Ben, pourquoi? Mais là, c'est ce qu'ils ont vécu, en fait, les Acadiens. On leur a fait effacer leur culture française. Tu vois? Tu vois, c'est juste un éternel répétement. Non, mais je parle comme... Je suis désespérée. Une éternelle répétition, l'histoire, en fait, tu vois? C'est... Il y a le grand Tintamarre, le 15 août, la fête du 15 août ici, c'est... Voilà, c'est très important. Là, tu vois, ils veulent changer le nom de l'université de Moncton parce que Moncton, c'était soldat anglais, en fait, qui a réprimé les Français. Donc là, ils veulent même plus que l'université s'appelle l'université de Moncton. Pour te dire combien le... Ouais, le, tu sais, c'est ancré le traumatisme quand même. Tu vois, on revient à ça, en fait.
Donc, du coup, et tout ça, je le savais pas. Part de l'histoire.
Voilà, il y a une grosse part culturelle de l'histoire que tu retrouves aussi en Nouvelle-Écosse. Pour l'avoir visité, il y avait des endroits où qui rappelaient donc bien l'histoire des Acadiens dans cette partie du Canada. Et donc ils se battent pour pas perdre le côté francophone en fait, parce que
donc ça explique
actuel,
le fait que ce soit une province très vraiment bilingue.
Voilà, c'est officiellement bilingue et ils se battent pour le conserver très fort. Ouais. Et donc des endroits plus bilingues que d'autres. Donc Dieppe, là, c'est plus francophone que Moncton, même si ça fait partie de la même comment on dit en France, région. Par contre, le nord, c'est vraiment batteur, je te dis, c'est vraiment francophone, on va dire à 90%. Voilà, donc si tu veux une vie qu'en français, au Nouveau-Brunswick, tu peux plus aller vers le nord. Ici, il faudra quand même parler l'anglais.
Et alors, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui te plaît dans le coin où tu habites? Qu'est-ce que tu fais de ton temps?
Alors, les parcs, la plage, que ce soit l'hiver, marcher sur la glace. Et, en fait, tu dis, j'ai marché sur l'océan. Tu dis, ben non. Ben si, tu marches
sur
l'océan.
C'est vrai, il y a des parties de l'océan qui sont gelées. C'est possible, ça?
Ah oui. Et puis, tu peux marcher loin. On avait de faire du chien de...
Loin comment?
Ah ben loin, tu peux marcher, je sais pas moi, 20, 30 mètres, 40 mètres dans l'océan. Et on avait de faire du chien de traîneau dans le nord, c'était encore... On avait loué un chalet, mais vraiment à la plage. Ouais. Mais c'est... Et tu marches.
C'est incroyable.
Ouais, non, c'est génial, magique. C'est à faire. Même toi, si tu veux visiter, mais vraiment, c'est l'hiver, c'est beau, quoi. Tu fais des balades, C'est magnifique. Tu as le rocher percé qui est connu ici, la baie
c'est
de Fundy. Il faudrait que je t'envoie des photos.
Mais oui, mais raconte-nous. Moi, tu es nos yeux. Alors, raconte-moi un peu.
C'est un rocher donc, qui comporte son nom et percé. Et tu marches au fond de l'océan, en fait, à marée basse.
D'accord. Okay.
Voilà. Tu marches, je l'ai filé l'été dernier, tu marches sur le fond de l'océan. Puis quand la marée remonte, t'as 20 mètres d'eau là où tu marchais quelques heures avant, mais c'est vraiment le fond de l'océan. Tu peux dire, j'ai marché sur le fond de l'océan. C'est, tu peux. Attends, il faut que je rebranche ma batterie. Voir les baleines. Tu peux aller faire une randonnée plus dans le nord et aller voir l'île en forme de cœur.
Une île en forme de cœur, ok.
Une île en forme de cœur, ouais. Alors, ne me demande pas les noms. Écoute, j'ai ce problème. C'est que je ne me souviens pas du nom des endroits. C'est le nom des rues, c'est pareil. Je sais le nom de la rue où j'habite, mais
ouais,
c'est un problème. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais ne me demande pas le nom des endroits parce que je ne m'en souviens pas, je ne sais pas pourquoi. Et c'était pareil en France. Je vais te dire quel magasin est dans la rue, mais je ne vais pas te dire le nom de la rue. Voilà. Donc là, c'est l'île en forme de cœur. Elle est vraiment en forme de cœur. Donc tu fais ta randonnée et puis tu as cette île au milieu du lac qui est en forme de cœur.
Et au quotidien, tu as beaucoup accès à la nature là où tu es? Enfin, qu'est-ce que tu fais, je sais pas, de ton temps libre?
On a plein de parcs, en fait. On a plein de parcs. On a
de parcs, genre des parcs en France ou des parcs nationaux ou des...
On a des parcs nationaux, puis là, c'est des parcs. Je ne sais pas s'il y a des parcs nationaux.
Non, mais pour savoir de quoi tu parles, en fait, quand tu dis parc, c'est des aires de jeu, des choses comme ça, c'est ça que tu veux dire?
Ah non, tu peux faire de la randonnée, tu peux faire des raquettes, tu peux faire...
Ah oui, donc c'est des parcs d'État ou des...
Alors attends, Irish... Ouais. C'est un nature park.
D'accord, des parcs naturels.
Voilà, un parc naturel. Merci, en français. Tu parles mieux français que moi. Oui, c'est ça. C'est le parc naturel. Voilà, et on en a plusieurs, en fait, dans les environs de la ville, en fait. Voilà, où on va aller faire nos balades ici. Une autre de mes activités que j'ai découverte et que je ne connaissais pas, c'est le yoga.
Ah ouais.
Des choses. Oui, le yoga chaud. Mais je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert, oui.
Attends, tu veux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors, c'est du yoga, mais dans une salle qui est chauffée, en fait. Et j'ai découvert ça, mais c'est génial. Je ne sais même pas si ça existe en France. Ça n'existait pas là où j'étais, en tout cas, ça, c'est sûr. Mais voilà, ça fait partie des choses et que je n'aurais pas faites en France, en fait. Je n'aurais pas pris le temps de faire... Non, tu changes. Ouais, moi, ça a changé pour le mieux d'être venu ici. Puis bon, après, le fait d'être ici aussi, j'ai oublié l'avantage du Nouveau-Brunswick, c'est que l'île du Prince-Édouard, c'est mais magnifique. Ah oui, c'est Charlottetown, Faison, des coins, des plages, c'est Anne et la maison au pignon vert. Dis-moi que je ne suis pas la seule à connaître.
Moi, j'avoue que c'est ma belle-sœur américaine qui m'a offert le livre en me disant qu'il fallait que je le lise, mais je ne le connaissais pas quand j'étais en France.
Bah, c'était ma voisine qui nous avait ouvert elle nous offrait des livres tous les Noëls, dont ce livre-là. Et donc, on a été... Et puis, la Nouvelle-Écosse avec Halifax. Écoute, je ne savais pas que les tombes de certaines personnes du Titanic étaient à Halifax. Et en fait, j'avais jamais figuré que le Titanic avait sombré si peu loin du Canada, en fait, et si peu loin d'Halifax. Tu vois, Cap-Breton, il y a plein de choses à faire. Moi, je le dis, venez. Il n'y a pas que le Québec, en fait. Les Français sont fixés sur le Québec. Il n'y a pas que le Québec. Moi, j'hésitais entre le Manitoba et le Nouveau-Brunswick. Puis j'ai choisi le Nouveau-Brunswick parce que c'était officiellement bilingue. Mais c'est une expérience à tenter. C'est une expérience à tenter et à vivre.
Trop bien. S'il y avait un truc à ramener de chez toi quand on vient te rendre visite, ce serait quoi?
Ah ben le sirop d'érable.
Le sirop d'érable?
Ouais, le sirop d'érable, ma sœur elle
connaît. Typique du nord-est nord-américain.
Oui, et puis ma sœur elle connaît une collègue de travail qui est productrice qui le fait à l'ancienne, chauffée au chaudron, donc c'est celui qu'on ramène en général. Le sirop d'érable, la viande séchée. Qui ressemble assez à celle que nous, qui font aussi en Algérie. En fait, c'est un moyen de conservation. Et on retrouve des choses, en fait. On retrouve des choses entre les deux cultures, bizarrement. Ouais, c'est des pratiques qui étaient identiques. Ça aussi, c'est assez bizarre. On se retrouve au final. Et je pense que c'est ceux qui sont racistes qui se posent trop de questions. Ils devraient moins s'en poser parce qu'on a tellement plus en commun.
Eh ben c'est canon comme conclusion, ma petite dame. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à toi.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Laila Sanoun pour son témoignage, tout en transparence et plein d'émotions. Je vous remercie également, vous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à aller le partager autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, à la machine à café, peu importe, ça compte énormément. Tradition oblige, je vous propose de découvrir quelques indices à propos de l'histoire que nous découvrirons ensemble mardi prochain.
Tu n'es pas juste une image, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu es aux États-Unis, tu es la française... Aux États-Unis, machin, il y a un truc, t'as des petits points en plus. Même par rapport à, tu vois, quand t'es aux États-Unis, par rapport à tes potes restés en France, on est là, ouah, la meuf est à New York et tout. Et en fait, quand tu reviens en France, t'as un peu l'impression de perdre tous ces statuts et t'as un peu l'impression d'être une merde, en fait. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais maintenant, je me rends compte qu'à Paris ou à New York, en fait, je suis la même personne et en fait, je suis assez forte, justement, pour être entre les deux. Pour être my own person, enfin ma propre personne. Et voilà, il faut avoir confiance et c'est pas où tu es qui fait ce que tu es. Je trouve que j'apprends la simplicité dans l'humour avec lui et avec les Américains en fait, parce que c'est pareil que pour le cinéma, j'ai l'impression qu'en France, on cherche toujours à faire la blague la plus intelligente, la plus smart et tout. la plus subtile, alors qu'en vrai, il faut juste être drôle, quoi. Donc, j'apprends un peu ça en ce moment. Voilà, c'est un peu mon apprentissage, à arrêter de vouloir être la plus intelligente et essayer d'être la plus drôle, quoi. Mais bon, ce que je veux, c'est que quand même, c'est que, un, les gens me comprennent, ça apparemment maintenant ça va, et que, deux, ils pensent pas que je vais faire un AVC sur scène, qu'ils soient pas trop inquiets pour moi. Non, mais il y a un truc comme ça, en fait, hein, ouais, c'est ouais. Que, faut que les gens, faut pas que les gens se disent, là, je vois, il y a des gens qui me font des réflexions, genre, ah, c'est très courageux de faire du stand-up en anglais. J'ai pas envie que ce soit ce qu'on dit, j'ai envie de dire, ah, c'est très drôle ce que tu fais en anglais, quoi. Donc, voilà, quoi.
Merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!